Et à 18h, c'est le journal avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Washington promet d'importantes sanctions complémentaires à l'encontre de la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour discuter du dernier tir de missile de Pyongyang. Suicide au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À l'annonce de sa condamnation, l'ancien haut responsable des forces croates de Bosnie a avalé du poison. Cinquième sommet Europe-Afrique à Abidjan. Il a l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Nous parlerons aussi de l'énergie d'avenir en Afrique avec l'inauguration au Burkina Faso de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Aux prochaines élections européennes, nous serons invités à voter pour des listes nationales et plus régionales. Un choix qui convient à tous les grands partis, sauf les Républicains. La Corée du Nord est devenue un état nucléaire à part entière. C'est le message que veut faire passer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec le tir de missile de la nuit dernière, un missile intercontinental capable d'atteindre le territoire américain. Après ce nouveau tir, la Chine a exprimé sa vive inquiétude. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir et les États-Unis ont déjà annoncé qu'il y aurait d'importantes sanctions complémentaires. Comment analyser cette nouvelle provocation nord-coréenne? Dans quelle mesure faut-il s'en inquiéter? Écoutez l'historien François Gaudemont, spécialiste de l'Asie, il est très préoccupé.
Mon instinct, c'est qu'on va vers un conflit plus grave. Je pense que ce qui allumera l'étincelle, si j'ose dire, ce sera un essai qui passera beaucoup plus près des États-Unis. Ce pourrait être le test d'un missile au-dessus du Pacifique avec une ogive nucléaire. Ce serait absolument terrifiant. Ça peut provoquer une réaction militaire, ça peut provoquer à ce moment-là une réaction en chaîne sur le 38e parallèle. Car avec son artillerie conventionnelle, la Corée du Nord a des moyens très puissants à court terme, disons pour quelques heures, espérons pas pour quelques jours, et on a le schéma d'un enchaînement de conflits qui est tout à fait possible. Un des gros problèmes de la situation, c'est que vous savez, on peut dire des armes nucléaires à peu près la même chose que ce qu'on disait à l'époque de la Révolution française, des baïonnettes. On peut tout faire sauf s'asseoir dessus. C'est-à-dire que si Pyongyang arrête le mouvement, dit « bon, on est un état nucléaire », et alors, le problème de son déclin économique, de son isolement, des sanctions, l'impasse dans laquelle ils sont, reste. Par conséquent, on peut prévoir que Pyongyang devra continuer sur cette voie. Pyongyang existe à cause des menaces qu'elle est capable d'agiter.
L'historien François Gaudemont, interrogé par Pierrick Bonneau. Donald Trump est donc déterminé à faire plier Pyongyang. Le président américain a parlé du dossier avec le président chinois Xi Jinping. Mais il a aussi trouvé le temps aujourd'hui de communiquer sur d'autres sujets. Il a ainsi appelé à boycotter la chaîne de télévision CNN, qu'il accuse régulièrement de déformer ses propos et son action. Il a aussi partagé sur le réseau Twitter des vidéos anti-musulmanes, des vidéos mises en ligne un peu plus tôt par un parti d'extrême droite britannique. Et ce soir, la polémique enfle. À Washington, Grégory Phillips.
Comme presque tous les jours, Donald Trump se lève tôt et entre 6h35 et 9h30 du matin, il publie 9 messages sur son compte Twitter, dont 3 relaient ses vidéos publiées par une certaine Jeda Frandsen. Elle est la numéro 2 du parti d'extrême droite britannique Britain First. La première vidéo, non authentifiée, est intitulée « Un musulman frappe un néerlandais ». Sans qu'on connaisse la provenance de ces images, les deux autres vidéos datent de 2013. Sur l'une d'entre elles, on voit un homme briser une statue de la Vierge. Sur la troisième, des combattants de l'État islamique jetaient un homme d'un toit. Trump relaie donc les messages d'une militante condamnée au Royaume-Uni pour avoir agressé une femme portant le hijab. Il y a 10 jours, Frandsen avait aussi été interpellée et interrogée par la police londonienne après un discours anti-musulman. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump retweete des messages venant de l'extrême droite. En août, après les événements de Charlottesville, il s'était fait le relais d'un suprémaciste blanc américain. Ce matin, la Maison-Blanche ne fait aucun commentaire sur les messages matinaux du président. Quant à Jeda Frandsen, elle se félicite sur le réseau social de la publicité que vient lui faire le 45e président des États-Unis.
Et cette réaction de Londres ce soir pour un porte-parole de la première ministre britannique Theresa May, Donald Trump a commis une erreur en relayant ces vidéos qui colportent des mensonges et attisent les tensions. C'était le dernier jugement rendu à La Haye avant la fermeture du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Slobodan Praljak, ancien haut responsable des forces croates de Bosnie, venait d'être jugé en appel. Mais à l'annonce de sa condamnation, il a avalé du poison et l'on a appris sa mort quelques heures plus tard. Pierre Benazet, vous vous êtes régulièrement rendu à La Haye pour suivre des audiences du tribunal. C'est un lieu où il y a eu beaucoup de polémiques, des cris, des larmes, mais jamais un tel drame.
Non, effectivement, c'est la première fois. Il y a déjà eu, évidemment, des coups de théâtre et des interruptions d'audience assez musclées du temps, par exemple, de Radovan Karadzic ou de Ratko Mladic. Il y a eu celle de Ratko Mladic la semaine dernière. Il y avait déjà eu deux suicides au tribunal, mais c'était deux hommes qui s'étaient pendus. Dokmanovic puis Babic s'étaient pendus dans leur cellule. Slobodan Milošević est mort en prison. On avait d'ailleurs parlé d'empoisonnement à cette époque. Il y avait des problèmes de contrebande, de médicaments qui avaient été retrouvés dans sa cellule. C'est effectivement la première fois devant le TPI que se produit un événement de ce genre. Slobodan Praljak s'est levé au moment où était confirmée sa condamnation à 20 ans. Je ne suis pas un criminel, je rejette ce jugement. Il a rejeté la tête en arrière et vidé cette fiole de poison avant de mourir quelques heures plus tard à l'hôpital. Slobodan Praljak s'était fait remarquer parce que c'était un ancien artiste, ancien directeur de théâtre qui avait monté une brigade de résistance à l'avancée des Serbes en Krajina serbe de Croatie au début de la guerre de Croatie en 1990-91 surtout. Slobodan Praljak a été condamné pour n'avoir pas empêché les crimes de guerre dans la région de Mostar, en Herzégovine. Donc, c'était le dernier procès, le dernier jugement au TPI, le dernier jugement en appel après le dernier jugement en première instance la semaine dernière pour Ratko Mladic. C'est donc un peu une fin d'activité en demi-teinte pour le tribunal pénal international après quasiment un quart de siècle de travail, mais c'est en tout cas une condamnation des Croates pour la guerre en Bosnie. C'est ça que probablement retiendra l'histoire.
Merci Pierre Benazet en direct de notre bureau de Bruxelles. Le cinquième sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine s'est ouvert à Abidjan et c'est à la jeunesse que le président ivoirien Alassane Ouattara a tenu à adresser des messages appelant les jeunes à ne pas tenter d'émigrer au péril de leur vie. Il a dit sa volonté d'améliorer leurs conditions de vie et de leur offrir opportunités et emploi. Claude Guibal, vous êtes notre envoyé spécial à Abidjan. Le thème de la jeunesse est le fil conducteur de ce sommet.
L'Afrique, un continent où 65% de la population a moins de 25 ans. Un continent dont la population va doubler d'ici 2050. Un continent où 1,5 milliard de personnes accéderont au marché de l'emploi d'ici 30 ans. C'est dire l'urgence quand il y a aussi peu de perspectives économiques avec ce développement en berne, ces états gangrénés par la mauvaise gouvernance, l'absence de débouchés, de formation. Et voilà évidemment le terreau sur lequel bourgeonnent les rêves de migration. Le constat est partagé ici à Abidjan par absolument tous les participants au sommet Europe-Afrique. Il faut investir massivement pour que cette jeunesse puisse porter l'Afrique plutôt que de la fuir. Et cela passe évidemment par l'éducation, l'accès aux formations. Alors qu'il est si difficile par exemple d'obtenir une bourse ou un visa pour étudier à l'étranger, il faudrait multiplier les doubles diplômes ou les campus numériques, ce qui veut dire impliquer davantage les opérateurs téléphoniques pour l'accès au haut débit. Créer les filières, créer les moyens, les débouchés sur place plutôt que d'être obligé d'aller les chercher ailleurs que dans un horizon bouché.
Claude Guibal à Abidjan avec Jean-Marie Porcher pour les moyens techniques. Et en amont de ce sommet, Emmanuel Macron a inauguré ce matin la centrale solaire de Zaktouli, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. C'est la plus grosse centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest et la France a largement participé à son financement. Cette centrale représente un enjeu crucial pour le Burkina Faso, pays très enclavé, qui est totalement dépendant des pays voisins en matière d'énergie. La majorité de la population n'a pas l'électricité. Le solaire apparaît donc comme une solution majeure. Le reportage de Célia Kiré.
De Jacques à Jean-Jacques.
Oui.
Nous confirmons que le disjoncteur est fermé. Donc le transport est en train d'être démarré.
Okay.
Les premiers tests sont réussis, c'est le top départ pour cette centrale solaire de 33 mégawatts. Pour le Burkina Faso, c'est une première. Nana Saïdou est très fière. Ce responsable de la Sonabel, l'entreprise nationale d'électricité, admire sous une chaleur écrasante les 130 000 panneaux solaires installés ici en quelques mois.
Alors là, on est au niveau du champ, sur le site même de la centrale solaire. La centrale doit durer 25 à 30 ans. Et avec les changements climatiques que nous avons, on a mis donc la barre très haute. Les panneaux s'étendent sur environ 55 hectares et c'est vraiment phénoménal.
Cette centrale est un projet phare pour le Burkina car aujourd'hui, ce petit pays enclavé est obligé d'importer du pétrole pour alimenter ses centrales thermiques. Un gouffre financier et un non-sens environnemental. Daniel Serme est un autre responsable de la Sonabel.
Par exemple, le thermique, on produit à plus de 100 francs le kilowattheure alors qu'avec le solaire, on est autour de 40 francs.
on pourra être un peu plus autonome. Bien sûr que nous sommes pionniers, nous sommes fiers de l'être.
Cette centrale construite en moins d'un an est un modèle pour la région et pour le Sahel en particulier. Pour Quentin Lebègue de l'Agence française du développement qui finance en partie ce chantier, l'enjeu dépasse les frontières.
Quand elle a été imaginée, cette centrale, il y a déjà 6-7 ans, parler de 20 MW puis 30 MW au Burkina Faso, ça paraissait un pari un petit peu fou quand même. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui, la centrale, elle a été construite en à peine plus d'un an. Le prix est beaucoup plus bas que ce qui était imaginé au début, parce que le prix du solaire s'est effondré. Cette centrale, elle va avoir un impact au-delà du Burkina. Elle va montrer à tous les pays voisins que c'est facile. La priorité sur le secteur énergétique, c'est de développer la capacité solaire. Le pétrole coûte très cher et puis on est dans un pays enclavé. Faire venir du pétrole ici, c'est des centaines et des centaines de camions qui traversent le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo tous les jours.
Et dans ce pays où moins de 20% de la population dispose de courant, les attentes sont très fortes. Au nord du pays, par exemple, dans la région de Waïgouya, une ligne à haute tension vient d'arriver et la vie a changé. À la tombée de la nuit, lorsque les lampadaires s'éclairent, la petite ville de Goursi n'a plus peur. Les femmes vont au puits, même tard, et elles peuvent travailler dans leur maison.
Puisqu'on était dans l'obscurité, on voit qu'avec l'éclairage, on est plus en sécurité. On arrive à suivre, par exemple, la télé comme on veut. On s'informe et bon, avec l'électricité, par exemple, nous les femmes, on peut développer des petits commerces, vendre de l'eau pour avoir un peu d'argent.
Mais un peu plus au nord, tout près de la frontière avec le Mali, cette région a été placée en zone rouge à cause du risque terroriste. La plupart des familles n'ont pas d'électricité. Certaines ont manifesté leur colère dans la rue.
Le lotissement date depuis 2004. 13 ans après, nous n'avons pas d'électricité, c'est de trop. Face au phénomène d'insécurité aussi qui va grandissant, ça inquiétait de plus en plus les populations. Il y avait des attaques sur la voie publique. Il y avait des agressions même à main armée, mais grâce à l'électrification, les gens circulent en toute liberté.
Dans cette région de Waïgouya où habitent en gros 1 million de personnes, il n'y a que 18 000 abonnés. L'électrification est un défi énorme. Le gouvernement souhaite que la moitié de la population soit couverte dans les prochaines années. Pour réellement devenir un champion du solaire, le Burkina devra notamment construire de nouvelles centrales capables de stocker l'énergie. Si la centrale de Zaktouli a coûté 30 000 millions d'euros, le pays a besoin du double au minimum.
C'est Lia Kiré à Zaktouli au Burkina Faso. Retour aux listes nationales pour les élections européennes de 2019. Édouard Philippe le confirme, la division de la France en 8 circonscriptions va être abandonnée. Le chef du gouvernement estime que des listes nationales renforceront la lisibilité des enjeux de l'élection. Bonsoir Kevin Bordereau.
Bonsoir.
Avant de faire cette annonce, le Premier ministre a reçu les dirigeants des principaux partis politiques et c'est vrai qu'un quasi-consensus s'est dégagé en faveur de ces listes nationales.
Et oui, car l'objectif, et ça la majorité des partis s'accordent, c'est de faire de ces européennes un vrai rendez-vous électoral en 2019. Lors des dernières élections en 2014, on passait à peine la barre des 40% de taux de participation. Les européennes, c'est un petit peu toujours le parent pauvre des scrutins sous la 5e République. Une élection souvent mal comprise selon le député de la France Insoumise, Éric Coquerel.
La répartition par région qui était proposée depuis des années est quelque chose qui perdait complètement les électeurs, qui n'avait pas de sens. Donc le fait d'avoir une liste pour tout le pays est quelque chose de satisfaisant. Sur ce point-là, en tout cas, nous sommes plutôt d'accord, ce qui peut arriver.
Alors s'il y a consensus, c'est évidemment parce qu'avec des listes nationales, il est plus simple pour chaque parti d'incarner une campagne avec des personnalités connues de l'électorat. Difficile pour les petits partis ou les nouveaux comme La République En Marche d'avoir des noms susceptibles de porter l'élection dans tous les territoires. Une manœuvre dénoncé par les Républicains, les seuls opposés à la réforme, son secrétaire général Bernard Accoyer.
Nous sommes clairement devant un tripatouillage du mode de scrutin qui essaye de répondre à la construction d'un parti politique en mal de leader et en mal de lisibilité dans les territoires.
Et Bernard Accoyer qui ajoute qu'à chaque fois qu'une majorité a modifié les règles d'un scrutin, elle a été sanctionnée ensuite par les urnes. Et il y a un risque effectivement pour Emmanuel Macron. En 2019, il sera à mi-mandat. Si comme il le souhaite, cette élection devient un vrai rendez-vous électoral, un échec aurait évidemment plus de poids.
Kevin Bordereau, ils ne veulent pas être les victimes collatérales de la débâcle électorale du Parti Socialiste. Alors, des salariés du PS ont décidé de briser le silence sur le plan social dont ils font l'objet. Le siège social de la rue de Solferino à Paris a été mis en vente mi-septembre et sur les 97 postes de permanents, 67 sont menacés. Des communicants, des assistants qui se sentent totalement abandonnés, Solène Cresson.
Devant les grilles du siège historique des socialistes, quelques pancartes brandies. On peut y lire « Pour un PSE plus juste ». Romaric Bullier, représentant du personnel, lit un texte. On y comprend que les salariés se sentent trahis.
Nous sommes tous ici des militants. La direction a présenté le 24 octobre un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral, sans aucun dialogue social, sans concertation préalable.
Où sont passées les valeurs du PS, s'interrogent les salariés.
Comment accepter que le Parti Socialiste n'utilise pas une partie des fonds qui seront à sa disposition pour sauvegarder plus d'emplois ?
Le prochain secrétaire du parti va s'installer sur des cendres, lance une salariée. Elle tient à rester anonyme, comme tous les autres. Elle parle de pression de la part des représentants du personnel et des politiques. Cette communicante va être virée, comme elle dit. On est traité de façon comptable, pas de façon humaine, dénonce-t-elle. Elle pense surtout à d'autres collègues plus âgés, comme cette assistante de 52 ans, qui repartira avec 5000 euros d'indemnité, comme tous les salariés, sauf qu'elle a passé 35 ans au PS. La communicante, déçue, en colère, reste une militante. Avant de partir, elle ajoute « On a peur qu'avec tout ça, on nous taxe d'être des antisocialistes ».
La Cour des comptes veut responsabiliser les patients et les professionnels. Dans un rapport sur l'avenir de l'assurance maladie, elle note les dépenses très élevées de la France en matière de santé et elle propose notamment des mesures financières coercitives à l'encontre des médecins libéraux. Les syndicats de médecins ont vivement réagi et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est empressée d'indiquer qu'elle ne partageait pas cette position sur le conventionnement sélectif. Mais le rapport de la Cour des comptes aborde aussi d'autres points. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Parmi les mesures proposées, la création d'une agence nationale de santé.
Oui, parce qu'il y a un constat qui revient dans quasiment tous les rapports de ce type. Il y a en France comme deux mondes qui cohabitent, celui de l'hôpital et celui des soins de ville. L'hôpital vient généralement pallier les lacunes du système dit de ville. La meilleure preuve, ce sont les consultations aux urgences qui ont augmenté de 40% depuis 2001 et qui, dans les trois quarts des cas, ne sont pas suivies d'une hospitalisation. La Cour appelle donc à créer une agence nationale de la santé qui chapeauterait soins de ville et hôpital, car pour le moment, les deux systèmes de soins sont gérés séparément, ce qui conduit d'ailleurs à de nombreux gaspillages, explique Antoine Durleyman, le président de la Chambre qui a supervisé le rapport. Il cite les affections de longue durée. 16% des Français bénéficient de cette couverture à 100%, mais cela représente 60% des dépenses de l'assurance maladie. Cela pourrait être moins sans réduire pour autant la prise en charge.
Par exemple, quelqu'un qui est pris en charge en ville, son dossier, il est en ville. Quand il revient à l'hôpital, tout le monde le sait, on refait l'ensemble de la batterie des analyses, du passage au scanner, en IRM. Voilà des doublons de coûts qui, si on était mieux organisé, disparaîtraient naturellement. Et c'est pour ça que la Cour insiste sur la nécessité du dossier médical partagé qui doit permettre d'éviter de refaire sempiternellement les mêmes examens, les mêmes analyses. C'est un gaspillage qui peut être évité.
Le dossier médical partagé, DMP, sorte de carnet de santé électronique, est sur les rails depuis 2004, mais il vient tout juste d'être mis en phase d'expérimentation dans 9 départements. Quand sera-t-il généralisé? On ne sait pas encore. La Cour ne développe pas le sujet. Il faut dire que les ratés de cette bonne idée lancée il y a 13 ans a déjà inspiré de très nombreux rapports.
Marie Viennot, la réforme du baccalauréat commence à se préciser. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, vient de lancer une concertation présidée par Pierre Mathiot, ancien directeur de Sciences Polil, et un rapport sera rendu en janvier pour une réforme qui doit entrer en vigueur en 2021. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
En l'état actuel du projet, il n'y aurait plus que 4 épreuves finales.
Oui, concrètement, pour l'instant, on se dirige vers 2 épreuves universelles qui seraient passées en juin avec la philosophie et un grand oral interdisciplinaire. Et 2 autres épreuves, dites spécialisées, seraient passées, elles, eh bien, en printemps, pendant les vacances de Pâques, par exemple. Comme cela doit permettre, eh bien, de communiquer les résultats aux écoles et aux universités, ce qui correspond à la nouvelle réforme de l'université et au nouveau système d'admission, Parcoursup qui remplace APB. Notamment, dans les filières sous tension, comme Psycho et STAPS, les universités pourraient donc ainsi refuser ou accepter les élèves qui postulent dans leur licence en fonction des résultats obtenus au bac. Une orientation qui va dans le bon sens pour Jean-Rémy Girard, vice-président du SNALC.
Le résultat de l'épreuve serait intégré au dossier de l'élève avec l'avis du conseil de classe du deuxième trimestre et donc les établissements d'enseignement supérieur auraient la note du bac aux épreuves de spécialité. Donc par exemple, vous êtes en charge d'une licence de biologie, eh bien vous aurez les notes d'épreuves de spécialité, de SVT, des élèves qui ont choisi cette spécialité-là. Donc c'est quand même un indicateur ultra intéressant.
Un indicateur qui montre bien la volonté du ministère de filtrer l'accès à l'université, même si le baccalauréat reste le principal sésame d'entrée. En attendant, les autres matières seraient passées sous la forme d'un contrôle continu pour garantir l'équité entre les établissements. Des partiels semestriels, comme à l'université, pourraient être mis en place avec l'anonymat des copies et des correcteurs. Jean-Michel Blanquer doit présenter les propositions retenues fin janvier, début février, car la réforme du lycée doit s'appliquer en seconde dès la rentrée prochaine.
Hakim Kasmi, soleil et vent demain près de la Méditerranée. Ailleurs, le temps sera très nuageux avec des averses passagères. Il devrait neiger dans l'Est. Les gelées seront fréquentes demain matin à l'intérieur des terres. Les maximales atteindront 1 à 14 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.